Le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand le nom de famille devient trop lourd à porter, il est aujourd'hui très difficile d'en changer. Une proposition de loi prévoit de simplifier la procédure. Elle est examinée ce matin en commission et ils sont nombreux à l'attendre, ce texte, vous l'entendrez. Un timide mea culpa et déjà la contre-offensive. Jean-Michel Blanquer tente de se sortir de la polémique sur Ibiza avant une nouvelle journée d'action dans l'éducation. L'école toujours sous la pression d'Omicron, record de contamination hier, mais moins de malades en réanimation, nous serons à Marseille. Au sommaire aussi, la concentration des médias au menu du Sénat, Vincent Bolloré est convoqué cet après-midi, et un documentaire hommage à Marie Trintignant, réalisé par sa mère, 18 ans après la mort de l'actrice.
Au micro de Léa Salamé à 7h50 aujourd'hui, le réalisateur et scénariste Édouard Baird et l'acteur Benoît Poulvorde pour le film Adieu Paris. Pour changer son nom de famille, Alexis, c'est aujourd'hui le parcours du combattant.
Prendre celui de la mère à la place du père ou inversement, la procédure est très longue, complexe. Sur les 4000 demandes recensées en 2021, seul un tiers ont abouti. Pourtant, c'est parfois la seule solution quand le nom devient trop lourd à porter. Eh bien, l'Assemblée nationale examine ce matin en commission une proposition de loi pour simplifier largement le processus et garantir l'égalité entre les parents. Selon ce texte porté par la majorité, une simple déclaration à l'état civil suffira pour choisir, par exemple, le nom de sa mère. La fin d'une longue bataille pour le collectif Porte mon nom, qui a recueilli des milliers de témoignages, comme celui de Sophie, une étudiante de 22 ans que Mathilde Dehimi a rencontrée.
Dans cette histoire, raconte Sophie, j'ai la chance de porter le nom de ma mère, accolé à celui de mon géniteur. Plus facile, dit-elle, pour oublier le nom de ce père au quotidien.
J'évite de mettre mon nom de famille sur les réseaux sociaux, adresse mail compris. Quand je signe un document, je le signe au nom de ma mère. Ce nom-là, je l'utilise que quand il s'agit de documents très formels, pour mes inscriptions à l'université, etc.
Et quand ses professeurs utilisent ce double nom, cela la renvoie invariablement à son passé douloureux, son père condamné pour le viol de sa demi-sœur.
J'ai réussi à me reconstruire plus ou moins psychologiquement. Maintenant, l'étape supérieure, c'est d'enlever ce nom qui me rattache à cette personne que je ne considère plus comme un membre de ma famille. Les choses que je peux accomplir dans ma vie, j'ai pas envie de les accomplir sous ce nom-là.
Alors en septembre, elle se renseigne pour effacer ce nom et doit justifier d'un intérêt légitime.
J'ai vu deux juristes, il y en a une pour qui ma demande paraît légitime, une pas forcément si légitime que ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était des démarches qui étaient coûteuses financièrement. C'est quelque chose qui est rendu public et j'ai trouvé ça extrêmement injuste.
Car actuellement, le changement de nom doit être publié au journal officiel. Sophie attend désormais que la proposition de loi simplifiée soit votée pour aller plus loin dans sa démarche.
Un témoignage recueilli par Mathilde Dehimi, et même si la loi permet déjà aujourd'hui d'accoler les noms des deux parents à la naissance, 8 enfants sur 10 portent encore seulement le nom de leur père, selon ce collectif Porte mon nom.
Il est 7h33, une séquence européenne sur la route de l'élection présidentielle.
Emmanuel Macron est attendu ce matin au Parlement européen, 20 minutes de discours, puis une séance de questions-réponses avec les eurodéputés. Le chef de l'État va dresser les priorités de la présidence française de l'Union, salaire minimum, taxe carbone, réforme de Schengen. Mais les enjeux franco-français ne seront pas loin dans l'hémicycle de Strasbourg. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs être interpellé par l'un de ses concurrents directs pour la présidentielle, l'écologiste Yannick Jadot, mais aussi des parlementaires du RN, de la France Insoumise ou encore de la droite. Avec ce discours de Strasbourg, l'Élysée espère tourner la page de l'Ibiza Gate. Jean-Michel Blanquer dévoilant le protocole à l'école depuis les Baléares, 36 heures de polémique et de malaise au sein de la majorité, et des explications hier soir aux 20h de TF1. Le ministre de l'Éducation se défend et passe déjà à la contre-attaque, Simon Le Baron.
Jean-Michel Blanquer veut bien le reconnaître, ce qui pose problème, c'est le symbole.
S'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais, parce que je vois bien la connotation qu'il a. Donc, bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu.
Même si Ibiza l'hiver, ce n'est pas du tout comme l'été, s'empresse-t-il de préciser. Mais à culpa du bout des lèvres, avant de repartir à l'offensive.
On voit bien que c'est peut-être un peu une erreur, puisque après, il y a cette exploitation qui est faite. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser.
Jean-Michel Blanquer le sait, s'il tombe, c'est un pilier du bilan sanitaire du président qui s'effondre. Impensable à 80 jours de l'élection.
Évidemment, ce serait plus simple de fermer les écoles. Je ne l'ai pas fait, ça m'expose à beaucoup d'adversité, beaucoup de gens qui sont contre moi pour des raisons diverses et variées.
Les oppositions politiques, les syndicats enseignants dans le viseur du ministre. Les premières sont finalement moins virulentes que ce que craignait le gouvernement. Les seconds appellent à la grève demain, mais sans les réformistes, UNSA, CFDT. Et la semaine prochaine, tout sera oublié, prédit un conseiller. Emmanuel Macron, resté silencieux, espère quant à lui ne pas être trop éclaboussé.
Simon Le Baron évoquait cette nouvelle journée d'action des enseignants demain contre la gestion de la crise sanitaire. À Paris, la préfecture de police interdit la manifestation au motif que les syndicats n'ont pas déposé leurs demandes dans les délais. On y revient dans le journal de 8 heures. L'école qui va rester sous tension face à Omicron, nouveau record de contamination hier en France. 465 000 cas en 24 heures, mais avec un variant moins grave, ça ne se voit pas en réanimation où la décrue semble amorcée. On vient de passer sous la barre des 3 900 patients en soins critiques. Et à Marseille, par exemple, on peut même reprogrammer des opérations, Olivier Martoc.
Ici, dans les services de réanimation, le soulagement est perceptible. Julien Carvelli est médecin dans celui de l'hôpital de la Timone.
Clairement, une baisse des admissions là depuis, on va dire, une petite semaine. On avait 12 patients atteints de la Covid la semaine dernière, on n'en a que 5 ou 6 aujourd'hui.
La baisse des patients Covid en réanimation permet d'accueillir d'autres malades. Là encore, soulagement. Jean-Luc Jouve est le président de la commission médicale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Il faut savoir qu'on a une liste d'attente qui est importante. De patients fragiles en chirurgie cardiaque, en neurochirurgie, en chirurgie cancérologique. Dès qu'il y a une brèche, on s'engouffre parce que ces patients, ça dure depuis début décembre quand même, les annulations. On a peur qu'ils nous échappent et qu'ils s'aggravent.
Soulagement enfin chez les politiques. Michel Rubirola, médecin et premier adjoint au maire, en charge de la santé.
On est rassuré parce qu'on se rend compte que chez les personnes vaccinées, l'Omicron souvent passe inaperçu puisqu'il y a des Covid fortuits qui sont découverts à l'hôpital alors que les personnes étaient hospitalisées pour autre chose. Donc c'est vraiment un très bon signe qu'on puisse à nouveau se remettre en ordre de marche pour prendre en charge la santé de l'ensemble de la population.
70% des opérations repoussées sont d'ores et déjà reprogrammées. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Une nouvelle sous-préfecture va voir le jour en France, c'est assez rare pour être souligné. En l'occurrence en Guyane, l'État veut l'implanter à Saint-Georges-de-l'Oyapock, 5000 habitants à la frontière brésilienne, un point de passage de l'immigration irrégulière. La plupart des titres de presse dans les mains de quelques milliardaires, le Sénat se penche sur la concentration de plus en plus forte des médias en France. 5 grands patrons vont être tour à tour auditionnés par une commission d'enquête. Vincent Bolloré ouvre le bal cet après-midi. Et la séance s'annonce musclée pour le premier actionnaire de Canal et de sa chaîne CNews et maintenant aussi d'Europe 1, le JDD ou encore Paris Match. Alexandra Hacoun.
C'est sans conteste l'audition la plus attendue, l'occasion de tenter de déterminer l'ampleur de l'appétit de l'industriel breton en matière de médias. Lui qui en à peine 5 ans a investi tous les domaines du secteur, télévision, radio, presse écrite, vient de mettre la main sur le groupe Lagardère et lorgnerait déjà sur le Figaro. Scruter ses intentions idéologiques également, l'inflexion ultra-droitière de sa chaîne d'information CNews, celle qui est en cours à Europe 1, une audition que les membres de la commission d'enquête espèrent plus fructueuse que son dernier passage devant les affaires culturelles du Sénat. C'était en juin 2016, 2h20, au cours desquelles celui qui avait entamé un grand ménage à Canal+, n'avait rien cédé, notamment sur les accusations d'interventionnisme, voire de censure dans les programmes.
De toute façon, je n'ai pas le pouvoir physique ou moral d'aller demander à qui que ce soit d'aller retirer quoi que ce soit. Je suis obligé de passer par la voie hiérarchique, comme on dit. Je ne peux pas me présenter dans une régie en disant supprimer ceci. Donc je pense que tout cela, ce sont des blagues qui ont été mises en avant pour éviter la diète.
Visiblement contrarié à ce moment-là de devoir se justifier auprès des sénateurs, dont il avait déjà rejeté par 2 fois l'invitation, à la toute dernière minute. Cet après-midi, un tel scénario est inenvisageable. Vincent Bolloré n'est pas convié par les 12 membres de la commission d'enquête. Il est convoqué et devra, avant de prendre la parole, prêter serment.
Alexandra Hacoun, dans le conflit sur la 5G aux États-Unis, les opérateurs téléphoniques font un geste face aux inquiétudes du secteur aérien. Ils vont bien déployer la technologie aujourd'hui dans tout le pays, mais ils n'activeront pas certaines antennes installées autour des aéroports. Les compagnies aériennes américaines redoutent un chaos dans le ciel, annulation, retard en série en raison des possibles interférences avec les instruments de bord des avions. Et déjà, des grands noms du secteur comme Emirates ou Japan Airlines annoncent la suspension de certains de leurs vol vers les États-Unis.
7h39, 18 ans après sa mort, le destin de Marie Trintignant raconté à l'écran.
Raconté par sa mère, Nadine, dans un documentaire qu'elle a écrit et réalisé pour Arte. Il sort aujourd'hui sur Internet. Le portrait sensible de sa fille, comédienne, morte sous les coups de Bertrand Cantat à l'été 2003. Amélie Perrier.
Certes, c'est une mère qui parle à sa fille disparue, mais c'est surtout une réalisatrice, Nadine Trintignant, qui veut raconter la carrière d'une comédienne, Marie.
Où est toute votre enquête ?
Nulle part.
Débutant devant sa caméra quand elle a 11 ans, aux côtés de son père, Jean-Louis Trintignant, son tout premier admirateur.
Qu'est-ce qu'elle joue bien ? Qu'est-ce qu'elle est douée ? Elle est étonnante.
Marie enchaîne les rôles ensuite avec Alain Corneau, son beau-père, puis avec Claude Chabrol, un ami, et des géants comme Ettore Scola, Mastroianni ou encore Jean-Pierre Marielle.
Je suis le groupie de Marie Trintignant.
Ah, pourquoi ?
Parce que c'est l'actrice que je préfère.
Ah bon ?
C'est la plus grande actrice française.
Beaucoup de disparus pour évoquer une vie stoppée à 41 ans sous la violence de Bertrand Cantat, un compagnon que Nadine Trintignant se refuse à nommer.
Ce même soir, il t'écrasa le visage avec ses mains pleines de bagues. Il te piétina une vingtaine de coups. Tu tombas dans un coma profond.
Et c'est là que ce que l'on a décrit comme un crime passionnel il y a 18 ans devient un féminicide, encore terriblement d'actualité.
N'oublions jamais, à travers toi, de parler des femmes battues, humiliées, souillées, et si souvent mortes sous les coups d'un amour illusoire.
Un film plein d'amour et d'admiration de Nadine Trintignant pour sa fille, mais aussi plein de colère froide pour ses crimes qui se perpétuent aujourd'hui.
Marie Trintignant, tes rêves brisés. Le documentaire est disponible dès aujourd'hui sur Arte TV, puis le 26 janvier à la télé. Et puis on vous parlait hier matin de cette somptueuse villa romaine,
ah oui,
la villa Aurora, proposée aux enchères à près d'un demi-milliard d'euros, ce qui en faisait l'une des plus chères au monde. Eh bien figurez-vous, Nicolas, qu'elle n'a pas trouvé acquéreur, aucun participant aux enchères hier, alors la vente est reprogrammé début avril, avec comme prévu une ristourne de 20%. J'ai eu le temps de calculer depuis hier. Ça fait 380 millions d'euros.
Voilà, c'est beaucoup plus abordable. Merci Alexis Morel, l'édito politique à suivre.